Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un deuxième épisode de cette série des clés pour vivre, retraite spirituelle avec Bossuet, chercher à vivre la parole de Dieu. C'est l'intitulé un peu de cette série, mais c'est surtout le titre d'un livre qui est paru aux éditions du Carmel et vous l'avez découverte hier. Je reçois son auteur Agnès Lachomme. Bonjour Agnès.
Bonjour Nathalie.
Alors merci de vous tenir fidèle dans ces studios pour ce temps presque, on va dire, de retraite radiophonique jusqu'à la fin de la semaine, avec ce grand, est-ce qu'on peut parler d'un grand quand on évoque cet évêque Bossuet du XVIIe siècle, Agnès Lachomme?
Oui, alors c'est un grand qui est à la cour des grands, ouais. Qui est auprès de Louis XIV,
qui a brillé,
et qui en même temps n'est pas dupe de cette vanité de la cour, de ce Versailles qui s'est construit, de ses splendeurs et ses ors, parce que c'est passager tout cela, hein, et je crois que il a cette facilité du contact avec les grands, peut-être une certaine fascination, et en même temps cette conscience très vive que tout cela va disparaître.
Cela est éphémère.
Oui.
Alors, on peut être lecteur, qu'on peut être aussi auditeur, jour après jour, vous rappelez à travers aussi tous les textes, hein, tout le travail que vous avez opéré en écrivant cet ouvrage. Bossuet rappelle sans cesse que notre vie est immortelle. Vous me permettez de lire page 34, un extrait de Bossuet dans Élévation. Souvenez-vous que la mort ne tarde pas, connaissez la loi du sépulcre et que rien ne vous la fasse oublier. Elle est écrite sur tous les tombeaux et dans tout le monde. Quiconque naît mourra de mort. Chaque moment, elle peut venir, non seulement renverser tous nos desseins, troubler tous nos plaisirs, nous ravir tous nos biens, mais ce qui est infiniment plus terrible, nous mener au jugement de Dieu. Ça, c'est du Bossuet. Est-ce qu'on peut dire qu'il est omnubilé quelque part sur cette fin dernière, cette
oui.
vie qui n'est que de passage?
Oui, c'est vrai que au moment où il a 19 ans, il accède au sous-diaconat et c'est là qu'il s'engage à être célibataire. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il rédige une méditation sur la brièveté de la vie. Hein, c'est étonnant quand on sait qu'il va vivre jusqu'en 1704. Et il réfléchit déjà à 19 ans sur la brièveté de cette vie. Comment se concentrer sur ce qui ne passe pas? Comment aller au cœur de l'existence sans se laisser distraire par des vanités, des plaisirs qui d'ailleurs, dit-il, sont souvent bien mêlés d'amertume. Alors que quand parfois on se concentre sur ce qui semble amer, on accède à des vrais plaisirs, à des vraies joies et beaucoup plus profondes en fait. Et donc c'est cette profondeur qui tout de suite nous saisit, hein, c'est sûr, quand on lit Bossuet. Bon, on connaît son Madame se meurt, Madame est morte. Hein, il a assisté à l'agonie et la mort d'une princesse brillante, belle, remarquable à tous égards, qui est morte en 9 heures de façon très soudaine. Hein, et donc même les plus grands ne sont pas épargnés par cette mort, même ceux qui semblent satisfaits à tous égards, même ceux qui semblent avoir bénéficié de tout ce qui est savoureux dans l'existence, en fait, se verront rattrapés par cette loi. Hein, et il y a vraiment ce constat de la mort qui nous permettra aussi de savoir de quoi on est sauvé par le Christ.
Qu'est-ce que vous souhaitez en sélectionnant dès le premier jour? C'est le premier jour de retraite. Pourquoi ce chapitre, Agnès Lachomme?
Alors, c'est vrai qu'on m'avait invité à suivre aussi le parcours des retraites. C'est-à-dire, souvent, on commence par une voie purgative. La ascèse mystique, c'est aussi la conscience qu'il peut y avoir une sécheresse, la crainte du péché, le désir de se rapprocher de Dieu. Et c'est vrai que chez Bossuet, ça prenait assez vite
ces
accents-là.
C'est
d'ailleurs souvent ce qu'on en retient. Et c'est dommage de s'arrêter là, parce qu'il y a autre chose aussi. Mais c'est vrai que il a conscience de cela. Il est, par exemple, dans le sermon sur la mort, pour la mort d'Henriette d'Angleterre, on entend dans les funérailles que des paroles d'étonnement de ce que ce mortel est mort. Chacun rappelle en son souvenir depuis quel temps il lui a parlé, de quoi le défunt l'a entretenu, et tout d'un coup, il est mort. Voilà, dit-on, ce que c'est que l'homme, et celui qu'il dit, c'est un homme. Et cet homme ne s'applique rien, oublieux de sa destinée. Ou s'il passe dans son esprit quelques désirs volages de s'y préparer, il dissipe bientôt ses noires idées. Et je puis dire, messieurs, que les mortels n'ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d'enterrer les morts même. On se dépêche d'enterrer ces idées noires pour passer à autre chose, mais peut-être qu'il faut s'y attarder un petit peu quand même.
Alors ces idées noires, c'est que c'est la mort. Mmh. Et cette mort, on ne veut pas la voir. Mmh. Ça reste tabou à cette époque.
Oui, bon, c'est normal, hein, c'est pas un bien la mort, mais c'est vrai que de ce contraste théâtral entre la gloire et la mort, que le XVIIe siècle sait si bien mettre en scène, on peut quand même retenir qu'on peut s'attarder sur cette finitude sans crainte de développer une espérance.
C'est-à-dire on peut la traverser.
Il faut
la traverser. Alors vous proposez dans la lecture de cet ouvrage un temps de retraite. Temps de retraite en matinée, en après-midi. Le premier jour, il y a aussi une méditation que vous proposez sur le salut étant Dieu. Vous rappelez aussi qu'il faut abandonner les fausses grandeurs qui ne sont que misère pour rencontrer la vraie gloire. Et ça, c'est du Bossuet aussi. Mmh. Donc, quitter toutes ces vanités. À mesure que les hommes ont de lumière, ils trouvent et grandeur et misère en l'homme. En un mot, l'homme connaît qu'il est misérable. Il est donc misérable puisqu'il l'est, mais il est bien grand puisqu'il le connaît. Faut-il connaître sa propre misère pour devenir grand ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a organisé la retraite comme dans la collection en plusieurs jours, hein, avec à chaque fois des méditations pour le matin et pour l'après-midi pour un petit peu scander, hein,
rythmer la journée.
Ça peut se faire en 10 jours, ça peut se faire autrement, hein, bien sûr. Mais et dans ce premier temps, alors là vous avez aussi lu du Pascal parce que ça se rapproche beaucoup, oui. Et que j'ai essayé de montrer, hein, voilà, que son contemporain le rejoignait aussi, hein, sur cette misère et cette grandeur de l'homme. Mais c'est vrai que ce qui intéresse Bossuet, ce n'est pas de nous désespérer, c'est de nous plonger dans une attitude d'humilité, parce que le Créateur qui nous a conféré l'être peut nous rendre immortellement glorieux à condition que de notre vivant, nous nous soyons enracinés dans cette vraie gloire qui n'est pas la gloire qui passe. Hein. Il ne faut pas se laisser leurrer par des splendeurs, par des vaines ambitions, par des sublimités fantasmées.
Des fausses gloires.
Hein. Voilà, tout à fait.
Alors, hein, c'est vrai. Des faux talents aussi.
Oui, ouais. Je pense qu'il devait sentir en lui.
S'il y avait un message aussi pour aujourd'hui, pour actualiser un Bossuet, et si on devait aussi le laisser parler aujourd'hui, Agnès Lachaume, il nous avertit, il nous prépare que ces fausses gloires, ces fausses vanités, ces désirs peut-être de carrière et d'ambition, il en parle aussi, et vous donnez des textes dans ce livre. C'est un danger aussi pour l'âme, au fond, parce qu'on parle aussi d'un pasteur. Hein. Vous,
oui,
l'avez
tout
nommé
à fait.
Hein, lors du premier entretien.
Voilà, alors c'est vrai qu'on peut avoir de vains rêves de grandeur. Notre désir de grandeur, il est bon, mais il s'arrêtera à la mort si nous suivons la grandeur du monde. Autant à ce moment-là suivre Dieu qui veut combler ce désir de grandeur avec ce qui est vraiment grand, hein, et c'est peut-être là où Bossuet veut en venir, hein, qu'est-ce qui peut vraiment durer éternellement pour que nous soyons vraiment grands, et c'est selon Dieu, non pas selon le monde.
Étudier Bossuet, travailler Bossuet, écrire aussi et préparer ce grand défi avec ce petit livre vous a quelque peu pour vous-même aussi éclairé, Agnès Lachaume. En méditant au fond sur cette vie qui n'est que passagère.
Oui, Bossuet a des pages superbes sur la chute de Satan qui s'admire lui-même et qui chute parce qu'il ne s'est pas rendu dépendant de Dieu, de son créateur qui seul peut conférer l'être. Et c'est vrai que ces dérives de l'intelligence sublime qui se considère comme autonome, Bossuet n'en est pas dupe. Si cette intelligence s'affranchit de l'amour, elle va mener au néant. Hein. Aucune splendeur ne protège de l'erreur. Enracinons-nous dans l'être, et l'être c'est Dieu pour Bossuet, enfin, c'est ce nom-là qu'il lui donne, hein, donc pas de fausses espérances, pas d'ambitions vaines, ne pas mépriser ce qui est bon et sain, mais toujours l'ordonner.
Qu'est-ce qui est bon et sain pour Bossuet en priorité, pour faire court et terminer l'entretien du jour en conclusion.
On peut peut-être prendre la page 58 que va nous permettre l'Eucharistie pour contenter le désir que nous avons de vivre et pour cela nous donner la vie éternelle dans l'âme par la manifestation de la vérité. Et dans le corps, par la glorieuse résurrection. Donc en fait, ce qui est bon, c'est de ressusciter dans notre corps et de connaître la vérité dans notre âme. Et ça, c'est la vie. Seigneur, qu'ai-je à désirer ? De vivre en vous, de vivre pour vous, de vivre de vous et de votre éternelle vérité, de vivre tout entier, de vivre dans l'âme, de vivre même dans le corps, de ne perdre jamais la vie, de vivre toujours, il me répète sans cesse dans ses méditations.
Et moi, je vous invite, chers auditeurs, à découvrir cet ouvrage pour un temps de retraite, un temps de retraite de repos aussi, retraite spirituelle avec Bossuet, et chercher à vivre la parole de Dieu aux éditions du Carmel. Et avec vous, Agnès Lachaume, merci, on vous retrouve demain à la même heure.
À demain.